Bonjour Paul Jorion.
Bonjour.
Le Forum économique de Davos s'est ouvert hier dans un format intégralement virtuel cette année pour cause de pandémie. Vous êtes donc, on vient de le dire, anthropologue et sociologue, mais vous êtes aussi un spécialiste des systèmes financiers. Si l'on en croit ses promoteurs, ce Forum de Davos devrait être l'occasion de repenser en profondeur le capitalisme. Est-ce qu'il faut prendre ces déclarations au sérieux ?
Le forum de Davos, ce sont des gens importants, ce sont ils se réunissent entre eux, c'est les acteurs principaux, non seulement de la finance, mais aussi du monde des affaires. Oui, ce sont des gens dont l'opinion compte. Il faut savoir ce qu'ils pensent de leur côté. Il serait bien que eux engagent un dialogue avec les gens qui réfléchissent sur ces questions de manière permanente, plutôt que de manière occasionnelle une fois par an.
L'une des questions centrales de cette édition du Forum de Davos, ce sera d'essayer de trouver les moyens de restaurer la croissance. Mais est-ce qu'on peut imaginer des scénarios pour restaurer la croissance alors que nous sommes encore en pleine pandémie et que donc on ne connaît pas encore l'ampleur des dégâts économiques qu'elle va occasionner ?
Oui, en effet, on est peut-être entré dans quelque chose qui ressemble davantage à ce qu'on appelle une dépression qu'une simple récession, comme on a vu autrefois. Mais il faut surtout réfléchir à la croissance, savoir ce qu'on en fait. Quand on nous donne des chiffres en nous disant que les 80% de la croissance de l'année dernière sont allés au 1% le plus riche de l'humanité, il y a peut-être, c'est le mécanisme lui-même de ce qu'on fait de la croissance qui compte, parce qu'on nous dit, on fait dépendre l'état-providence de la croissance. Mais ce n'est plus comme ça que ça marche. La croissance ne va plus à l'état-providence. Il y a une telle concentration de la richesse qu'elle va à un tout petit nombre d'acteurs qui sont sans doute ceux qui se réunissent aussi à Davos. Mais quand ils disent entre eux qu'il faut réfléchir à nouveau à un impôt sur les grosses fortunes, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a le mécanisme grippé qui relie la croissance au bonheur, je dirais, de la grande majorité de la population. Ça ne marche plus comme ça, hélas.
Ouais. Le forum doit en effet, puisque au fond c'est ce que vous évoquez, se pencher sur la question des inégalités, alors que l'écart en effet ne cesse de se creuser entre les très riches et les très pauvres. Est-ce que vous pensez que ça fait peser aujourd'hui une grave menace sur la cohésion des sociétés ?
Oui, bien évidemment. Quand on pense à, par exemple, à Keynes, quand Keynes réfléchissait en 1936 au cœur de la crise, l'économiste britannique, effectivement, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait qu'une chose que les gouvernements oublient, et ils l'oublient toujours, c'est que si on ne peut pas réunir autour de la table des gens pour avoir le consensus de l'ensemble de la société, c'est une chose que tous les gouvernements peuvent éviter, c'est que le dissensus, c'est-à-dire en fait le ressentiment dans la population, lui augmente de telle manière qu'il rend les choses ingouvernables. Et ça, nos gouvernements ne s'en rendent pas compte. Ils voient venir apparaître des mouvements populistes, des gouvernements populistes, d'un président de la République aux États-Unis populiste, et on se gratte la tête comme si on ne savait pas d'où ça vient. Ça vient simplement du fait que nos gouvernants ne règlent pas les problèmes de la population d'ensemble. Et quand la population doit voter, alors elle vote par ressentiment, effectivement. Elle vote pour quelqu'un qui a l'air d'éléphant dans le magasin de porcelaine, au lieu de voter pour des gouvernants qui vont régler les problèmes.
Ouais, il y a un peu plus d'un an, en août 2019, le Business Roundtable, qui regroupe environ 200 des plus puissantes entreprises américaines, a publié une déclaration dans laquelle il s'engageait à redéfinir la mission des entreprises vers plus de considération pour les salariés, une meilleure prise en compte des besoins des clients et des actionnaires moins privilégiés. Une déclaration de bonnes intentions, peut-être même de très bonnes intentions. Est-ce que cela a été suivi des faits ?
Sur deux ans, on ne peut pas dire véritablement, surtout que ça a été une période tout à fait extraordinaire, comme vous le dites, dont nous ne sommes pas encore sortis. C'est une bonne chose. Il faut saluer quand les syndicats patronaux, comme celui-là, qui est très important aux États-Unis, prennent font une telle déclaration. D'autant qu'il y a une minorité qui a protesté violemment à l'intérieur de ce groupe. Mais la toute grande majorité majorité a pris parti pour... C'est une remise en cause, de fait, voilà, d'un des principes fondamentaux du néolibéralisme, ce pouvoir absolu des investisseurs, des actionnaires, des entreprises. Non, c'est une très bonne chose que ce soit remis en question. Mais comme je vous dis, malheureusement, il ne semble pas qu'un dialogue existe avec la population dans son ensemble. Ce sont des gens qui se réunissent une fois par an, et puis on a l'impression que, voilà, d'une année à l'autre, il se passe absolument rien. Ils ne prennent pas contact avec les gens qui pourraient les aider à réfléchir. Donc, ça, c'est peu encourageant.
Le capitalisme américain prend-il mieux en compte l'évolution des sociétés que le capitalisme européen ?
C'est-à-dire il est plus réactif, comme on dit, c'est vrai. Comme les gens sont plus acculés, mais aussi comme ils ont moins de difficultés à lancer une entreprise, il y a une tradition aux États-Unis, ça a un peu disparu, de donner aux gens une seconde chance quand les choses ne marchaient pas. Oui, c'est un capitalisme qui est plus ouvert aux entreprises individuelles, il y a bien moins de paperasserie, mais en même temps, il est plus dur aussi. Il est plus dur aux perdants que chez nous. Il y a des trade-offs, comme on dit, un arbitrage, mais ce que nous regardons, ce qui va se passer du capitalisme, malheureusement, c'est jamais chez nous en Europe qu'on peut regarder. C'est toujours aux États-Unis que ça se passe, parce que d'une certaine manière, les États-Unis sont toujours une espèce d'Europe au carré, c'est-à-dire en fait que les esprits les plus inventifs européens sont allés se mettre là, mais ce n'est plus le cas uniquement pour les Européens. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise maintenant, vous le savez, aux États-Unis, qui sont d'origine indienne ou qui sont d'origine asiatique, comme on dit là-bas, c'est-à-dire des gens qui viennent de Corée, du Japon, des Chinois et également. Non, quand on en veut à l'intérieur de ce système, c'est le meilleur endroit pour le faire. On est plus libre et du coup, on est plus inventif. Mais il y a l'inconvénient, c'est que les handicaps de ce système sont plus visibles encore là qu'ailleurs et que quand ça va mal, ça commence par aller mal aux États-Unis.
Oui, rapidement, Paul Jorion, vous qui avez ce regard à plusieurs facettes, anthropologie, sociologie, économie, comment voyez-vous venir un possible troisième reconfinement ?
Ah, malheureusement, mais là, chaque fois qu'il y a un confinement supplémentaire, on s'enfonce davantage dans une crise économique. Il est dommage que les pays occidentaux comparent simplement leur performance dans ce domaine-là entre eux, qui est assez médiocre, parce que simplement, aucun de ces pays ne prend le problème le taureau par les cornes, comme le fait la Chine, et comme le fait la Corée, comme le fait un certain nombre de pays asiatiques. Pourquoi sommes-nous incapables de faire aussi bien qu'eux, de ce point de vue-là? En fait, il n'y a pas de raison. De fait, ce sont les gouvernements qui refusent de faire ça, souvent parce que les syndicats patronaux leur disent il faut continuer comme ça.
Merci Paul Jorion. Bonne journée.